Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Allez, il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
Les histoires de mots peuvent-elles être aussi des histoires d'images? Les histoires de guerre peuvent-elles être aussi des histoires d'amitié? Les histoires de mecs peuvent-elles aussi être des histoires d'amour et de poésie? Attention, film simple, attention, film sensible. Une bande de potes, pas toujours lettrés, va déterrer des livres encore entiers dans des maisons bombardées à Daraya, en Syrie. Sur chaque couverture, ils écrivent le nom du propriétaire dans l'espoir de restituer l'ouvrage après la guerre. Seulement, voilà, Daraya n'est plus, ville fantôme, sauf dans les souvenirs, sauf dans la nostalgie du pays, sauf sur les images que les copains se sont acharnés à tourner en même temps qu'ils créaient une bibliothèque.
L'instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Delphine Minoui.
Bonjour Sonia.
Comme je suis contente de vous rencontrer en chair et en os, je vous lis depuis des années, correspondante au Moyen-Orient, au Figaro. Fut un temps, vous étiez basée en Iran. C'est cela. Maintenant, vous êtes basée à Istanbul. Votre livre est sorti il y a 2 ans, Les Passeurs de Livres, aux éditions du Seuil. Le film, maintenant, dont on va parler, vous l'avez co-réalisé avec le toujours impeccable Bruno Jouclas. Il s'intitule Daraya, une bibliothèque sous les bombes. Et il sera diffusé dimanche à 22h35 sur France 5. Est-ce que j'ai tout dit?
C'est parfait.
Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, je l'ai dit, vous vivez à Istanbul. Alors, avant qu'on parle de la Syrie, qui est un terrain que vous avez énormément couvert pour le journal, je le dis, je vous lis régulièrement vos enquêtes, vos reportages, comme celle-ci que vous avez publiée il y a tout juste quelques jours dans le Figaro. En Turquie, l'offensive contre l'avortement des islamo-conservateurs. C'est intéressant parce que, évidemment, nous sommes le 8 mars, et c'est le 8 mars partout dans le monde, Delphine Minoui. Nouveau signe de régression des droits de la femme dans la Turquie du président Erdogan.
Évidemment, c'est un signe de retour en arrière, un signe malheureux, puisque en Turquie, l'avortement est légal depuis 1983, c'est ancré dans la loi.
Et c'est ça, il y a très peu de pays où l'avortement est légal. La Tunisie, je crois, c'est
la
ça.
La Tunisie, et je pense que c'est tout.
Hein, et la Turquie,
c'est ça. Et la Turquie. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que c'est un exemple, un nouvel exemple de la régression, de la réislamisation rampante de la société, d'une chape de plomb conservatrice. C'est parti d'un discours du président Erdogan en 2012, où il a dit tout simplement que l'avortement était un crime. Mmh. Mais rien n'a été transmis, traduit dans les lois.
Ouais.
Or, aujourd'hui, une jeune femme turque qui veut avorter, qui va dans un hôpital public, se voit opposer un refus.
C'est cela.
Et c'est terrible.
Donc, vous recueillez des témoignages de femmes qui avortent dans des endroits clandestins, d'une crasse absolument épaisse. Épouvantable, reçu par un gynécologue lui-même dégueulasse et la clope au bec et qui sortent de là ruinés, en tout cas psychologiquement. Vous dites aussi qu'il faut désormais avoir les moyens financiers d'avorter.
Ça coûte très cher.
Ça coûte très cher puisqu'il faut contourner et il faut pouvoir s'offrir justement ces avortements clandestins.
Et c'est une souffrance et une bataille dans le silence aussi parce que ces jeunes femmes, elles ont peur d'en parler à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille. Et c'est ça qui est terrible. Et merci d'évoquer ce sujet en ce jour symbolique du 8 mars, de la journée des femmes, parce que c'est la Turquie, mais c'est aussi c'est la porte voisine de l'Europe.
Ouais.
Je sais que dans d'autres pays européens, les femmes rencontrent aussi ce genre de difficultés. Donc c'était important pour moi d'en parler.
Merci beaucoup. Alors le vendredi, chère Delphine Minoui, eh bien nous avons un jeu tous les vendredis matin qui s'appelle la Madeleine. On fait jouer nos auditeurs avec des souvenirs de radio et de télévision. Aujourd'hui, j'ai un très joli cadeau pour celui qui va être le premier à nous envoyer un mail, toujours la même adresse, l'instantm@radiofrance.com, l'instantm tout attaché à radiofrance.com. On vous offre Les Guerres de Coco Chanel, qui est un très beau documentaire réédité par Lina. Évidemment, c'est la Fashion Week et évidemment, c'est en hommage à Karl Lagerfeld. Alors, puisque nous allons parler ensemble, Delphine, d'accès aux livres, eh bien, voici ma question. Quelle fut la première émission littéraire de la télévision française?
Si vous voulez bien, on va feuilleter ce journal, votre journal. Il semble que vous faites en effet état d'une certaine passion pour l'or que vous avez, pour l'argent et pour l'or. C'est vrai, ça.
C'est exact. Il y a deux choses que j'aime le plus au monde. L'une, c'est mon épouse Gala, et l'autre, l'or.
Quelle fut la première émission littéraire de la télévision française? L'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, nous allons parler de résistance par les livres et nous allons parler d'un pays rêvé. Cette histoire d'Delphine Minoui, vous la faites raconter à l'un de ses protagonistes. Il s'appelle Shadi, il vit comme vous à Istanbul, qui est, il faut l'expliquer, la ville de l'exil, ou en tout cas la Turquie, le pays de l'exil pour les Syriens qui ont fui. Nous allons nous rendre donc à Doraya, 7 km de Damas, l'une des premières villes à s'être soulevée en 2011, contre Bachar el-Assad. On parle d'une bande de potes qui ont quoi ? La vingtaine ? À peine la vingtaine ?
Ils sont tout jeunes quand la révolution démarre en 2011. En effet, pour certains, ils n'ont que 18, 19 ans. Ils ont la vie devant eux.
Alors, on va commencer justement par cette question de l'image, puisque cette histoire était un livre qui parlait des livres. C'est devenu un film fait avec des images qui ne sont pas toujours les vôtres, qui sont d'abord les leurs.
Certains se battaient avec des armes, nous avec nos caméras. On voulait montrer le vrai visage de cette guerre. Pas l'image que Bachar al-Assad renvoyait au monde. J'avais 22 ans sur cette image. C'est la guerre qui m'a appris à tourner.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Voilà, c'est la guerre qui m'a appris à tourner. Cette bande-là a filmé et a photographié sans relâche. J'imagine que ces documents-là, qui sont rares, qui n'ont jamais été diffusés à la télé, vous les connaissez depuis longtemps, Delphine Minoui, depuis l'époque où vous les avez rencontrés pour d'abord écrire un livre.
En fait, tout a commencé par le biais virtuel. Mm-hmm. C'était à la fin de l'été 2015, quand j'ai noué un premier lien avec eux, quand j'ai découvert toute partie d'une image, en fait. Une photo que j'ai trouvée sur Facebook, qui les montrait dans cette bibliothèque, entourée de murs de livres, avec une légende qui disait seulement qu'il s'agissait de la bibliothèque secrète clandestine de Daraya. C'est comme si je tombais sur la première pièce d'un puzzle. Et tout d'un coup, j'ai été happée par cette pièce. Et j'ai cherché à reconstituer ce puzzle à travers les mots, à travers les échanges qu'on a eus à travers l'internet, et petit à petit à travers ces bribes d'images, ces fragments épars qui m'ont envoyé
qui rendaient presque évident l'idée d'en faire un film qui finalement est d'une toute autre nature que le livre que vous avez publié il y a 2 ans aux éditions du Seuil. Il faut quand même dire que Shadi a été blessé en 2016, qu'il ne doit sa vie qu'à la caméra qu'il portait contre le cœur et qui a arrêté un éclat d'obus, sinon il en serait mort, et que aujourd'hui toute cette bande-là a un projet de plateforme d'échange pour archiver les photos du siège. Ils ont réalisé un travail de documentation extrêmement important.
C'est un véritable engagement.
C'est
cette idée de trouver un moyen de raconter, d'immortaliser une révolution d'abord, d'immortaliser un siège terrible qui a duré 4 ans. Les gens étaient bombardés, encerclés, ils n'avaient plus rien à manger. À un moment donné, ils ne se nourrissaient que d'une soupe à base de feuilles qu'ils ramassaient dans les rues. Et ces jeunes se sont dit, il n'y a personne pour raconter notre histoire. Il y a juste un type en face de nous, il s'appelle Bachar al-Assad. Il est là-haut sur la montagne, à 7 kilomètres. Et il nous fait tirer dessus tous les jours, bombardement au baril d'explosifs.
Et c'est cette idée de
donner un contre-champ à ce récit.
Un contre-récit,
c'est-à-dire qu'il y avait cette vérité officielle que propageait Bachar al-Assad à travers sa propagande, qui était de nous dire « je suis en train de bombarder Daraya parce qu'il n'y a que des terroristes à Daraya ». Ces jeunes, ils se sont dit « nous allons montrer qui nous sommes vraiment. Nous voulons que le monde entier nous comprenne. Nous nous sentons abandonnés. Les convois humanitaires de l'ONU ne peuvent pas, même pas, atteindre notre ville. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les seules armes que nous possédons, c'est-à-dire des caméras. Ils ont commencé à filmer avec des petites caméras Sony, avec leur téléphone portable.
Mais
il y a plein d'images filmées en selfie, en vidéo.
Émouvant.
Et c'est ça qui est fort. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, oui, il y avait l'évidence d'un film. Quand j'ai retrouvé à la fin du siège, quand ils ont été contraints à l'évacuation à la fin de l'été 2016, et que Shadi, le premier, a sauté la frontière, s'est retrouvé en Turquie, qu'on s'est retrouvé dans ce café, et qu'en bandoulière, parce qu'il n'avait le droit de partir qu'avec un seul sac, en 24 heures. Il a apporté son sac, il a ouvert son sac, Et qu'est-ce qu'il y avait ? C'était la mémoire visuelle vivante de Daraya sur tous ses disques durs. Et donc moi, je me suis dit, pour moi c'était
évident. C'est un film sur, en fait, la notion de trace. Oui. Parce que vous l'avez dit, il y a un moment, ils sont contraints. Alors évidemment, l'hôpital est détruit, il n'y a plus de nourriture, mais surtout, il y a un ultimatum de Bachar el-Assad et de son armée. On leur donne 48 heures pour quitter la ville. Il y a des bus qui les attendent et qui vont les emmener à Idlib, ailleurs.
À 300 kilomètres de chez eux.
À 300 kilomètres, toujours en Syrie. Et il faut quand même le dire, le régime interdit aux habitants de revenir dans la ville. Ils n'ont jamais revu la ville. Alors, Ahmad, qui fait partie donc, de cette bande de potes, en partant, a sillonné la ville avec sa caméra en commentant les images.
Depuis 2013, je viens souvent ici, en pleine journée, en pleine nuit. Une échelle. Car l'escalier est sous l'œil du sniper. Là, je suis avec Abu Yazan, un des gars courageux de la ville. Et ça, c'est un de ses livres. Et là, nous entrons dans le lieu le plus pur, le cimetière des martyrs. Avant ici, tout était vert. Il n'en reste plus rien. Ils n'ont rien laissé.
C'est très très émouvant de dire adieu à sa ville en images. Très très émouvant.
C'est bouleversant. Ouais. C'est bouleversant. Cette séquence dans le film, elle fait quelques minutes. En réalité, elle fait 45 minutes. C'est incroyable tout ce qu'ils ont pu rapporter. Toutes ces images, ils ont voulu documenter le moindre détail de toute cette expérience. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est que c'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui, c'est qu'ils ont vécu le pire comme le plus beau. Oui. Ils ont cru, ils ont croqué la vie en permanence sous les bombes. Ils ont adopté, ils se sont formés à l'école du système D. La bibliothèque s'est transformée en université clandestine. Dès qu'il y avait un répit, ils sortaient les têtes des trous parce que tout se passait. Il y avait une vie parallèle dans les sous-sols de Daraya.
On va les écouter. On va écouter Shadi qui raconte la bibliothèque justement.
C'est incroyable tout ce qu'ils ont pu récupérer. Des livres religieux, des livres d'histoire, des romans censurés par le régime. Chaque ouvrage était comme un trésor. Sur la première page, on a écrit le nom du propriétaire pour lui rendre quand la guerre serait finie. On a tout classé, tout numéroté. C'était comme remettre de l'ordre au milieu du chaos.
Voilà, tout est dit. Remettre de l'ordre au milieu du chaos. Classer les livres, on les voit classer les livres et surtout, il faut qu'on se le représente, donc il faut qu'on le décrive aux auditeurs. La bibliothèque cachée sous une cave, justement dans une cave, c'est un endroit très soigné.
C'est impressionnant, ils avaient même des règles dans cette bibliothèque qu'ils avaient accrochées sur le mur. Respect des autres, ne pas faire trop de bruit alors que bien évidemment il y a des bombardements au-dessus de la tête. Respecter les temps d'emprunt, c'est-à-dire si vous empruntez un livre pour une semaine, vous avez intérêt à le rendre, sinon vous aurez une pénalité. Et c'est ça qui est fou, c'était ça en permanence pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont, quand il n'y avait plus à manger, ils ont improvisé des jardins potagers au pied des immeubles, ils faisaient pousser des courgettes qui parfois, ils leur sortaient parfois des tomates.
Bien justement qu'on parle un tout petit peu de nourriture, parce que ils ont filmé une séquence qui est elle aussi bouleversante. Il y a des gamins qui jouent avec de la vaisselle récupérée dans les décombres. Et ils jouent à fabriquer des gâteaux, à cuisiner des gâteaux. Bon, les gamins disent eux-mêmes qu'ils n'ont rien mangé depuis 3 ans. Et ce qui est très très beau, c'est qu'une fois que les gâteaux qui sont faits avec de la terre, des cailloux et de la bouillasse et de l'eau, quoi, une fois que la petite fille les met sur la table, ils sont extraordinairement présentés et décorés avec des fleurs. Et là, d'un seul coup, ressurgit tout l'art culinaire syrien. Et ça, c'est très émouvant.
Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont toujours cherché à extraire des bribes de lumière, des bribes de vie, des champs d'espoir, avec ce qu'ils avaient à portée de main. Et c'est quelque chose qu'ils ne nous disent pas dans le documentaire, parce qu'on pouvait pas tout dire évidemment, mais qu'ils nous ont dit en aparté, c'est que parfois, quand il y avait rien à manger, Il s'asseyait, il dressait une nappe traditionnelle au sol, il s'asseyait en tailleur et il mangeait leur soupe dégoûtante, complètement aqueuse à base de feuilles. Et ils s'inventaient, ils rêvaient aux plats que cuisinait leur maman. Et ils parlaient des courgettes farcies, du veau
et vous, bien mijoté. Et vous, filmez avec Bruno Joucla, le Shadi revenu dans sa famille, cuisinant aux côtés de sa maman. Et il lui pose une question, c'est « Est-ce que vous pensiez à moi quand vous étiez à table, quand vous mangiez ?» Parce que on sent que l'acte de partager de la nourriture et de cuisiner pour les Syriens, c'est quand même quelque chose de très beau, très fort et très significatif dans le lien qui unit les hommes entre eux.
C'est très important la nourriture en effet en Syrie, c'est le repas, c'est un moment de convivialité. D'ailleurs, quand vous êtes invité chez un Syrien, eh bien il y en a toujours pour 20, même s'il y a seulement deux convives, et ça se voit en effet dans ce rapport entre Shadi et sa maman. Dès qu'elle l'a retrouvé, la première fois qu'elle l'a retrouvé quand il est arrivé en Turquie, elle lui a pas demandé s'il allait bien, elle lui a demandé s'il avait bien mangé.
Alors Ahmad est resté donc lui en Syrie le plus longtemps qu'il a pu. Il a transformé la bibliothèque secrète de Daraya en un camion itinérant. Et il a continué d'aller de sillonner la région d'Idlib avec ce petit camion. Il l'a fait alors que la région commençait à être bombardée par les Russes, alors que surtout elle était tenue par les islamistes, l'ex-front al-Nosra, et que c'était extrêmement dangereux et compliqué.
Oui, il a continué à le faire, envers et contre tout, parce que c'est ce qu'ils m'ont toujours dit, c'est que pour eux, ce qu'ils ont appris avec la guerre, il faut savoir que ces jeunes détestaient lire avant la Révolution, et que c'est la guerre qui les a encouragés à lire, parce que les livres sont devenus des refuges, sont devenus une façon de s'évader, de grandir, de tenir debout, et les livres... Au moment où ils n'avaient
d'ailleurs,
plus rien à manger,
assez
voilà, les livres sont devenus une
de
forme
lecture.
De nourriture spirituelle. Ouais. Et les livres les ont aidés à cultiver l'espoir. Et donc cet espoir, il est toujours là. Et c'est ce que Ahmad, avec son petit bibliobus de rien du tout, avec ses quelques bouquins qu'il a réussi à récolter à droite à gauche, c'est ce qu'il a essayé de continuer à faire à Idlib, même s'il y avait encore des postes de contrôle, des miliciens djihadistes qui vérifiaient à l'intérieur, qui essayaient de voir s'il n'y avait pas le Coran, enfin, qui lui demandaient, mais où est le Coran? Il disait, et lui, il trouvait toujours des blagues, parce qu'il se réfugiait beaucoup dans l'humour, dans les blagues, il disait, mais écoutez, aucun de ces livres ne pourront égaler le Coran. C'est pour ça que j'ai pas mis le Coran dans ce véhicule.
C'est ça.
Et hop, continuer. L'école de la Dribouille.
D'ailleurs,
et toujours.
Et ça aussi, c'est très frappant, et c'est même frappant à l'image. C'est-à-dire que, en fait, on alterne des séquences entre des décombres. Il y a pas d'autre mot. Il ne reste rien de cette ville.
La ville est rasée.
La ville est rasée. Et quelque chose qui est intact. C'est-à-dire leur amitié, puisque vous allez filmer leur retrouvaille en Turquie. Donc là, je vous préviens, sortez les mouchoirs. Vous filmez leur retrouvaille en Turquie et on sent bien qu'entre eux, il y a quelque chose d'intact. C'est-à-dire la notion qu'ils ont très ancrée de leur culture, de leur pays, de leurs souvenirs. Et cette immense difficulté des Syriens en Turquie. Parce que ça, il faut en dire un mot. Vous les connaissez bien, vous les côtoyez. Ils ne sont pas chez eux en Turquie et ils ne le seront jamais.
Oui, c'est ce qui nous tenait vraiment à cœur avec Bruno Joucla, mon co-réalisateur, qui est également l'excellent monteur de ce film. C'était de tisser un double fil narratif entre ce présent, cette tentative de retrouvailles, cette amitié qui tient malgré tout et qui tiendra toujours.
Toujours.
Et ce flashback sur cette mémoire de Daraya. Même si aujourd'hui, comme vous le dites, la vie elle est pas rose pour eux. Il y a presque 4 millions de réfugiés syriens aujourd'hui en Turquie. Ils sont pas si bien accueillis que ça. Non. Ils galèrent, ils ont des difficultés pour obtenir des papiers. Ils sont sur un siège éjectable parce que, selon la loi turque, vous êtes invité en Turquie, vous n'êtes pas réfugié. Donc si le président décide de les renvoyer, le président Erdogan décide de les renvoyer en Syrie, ils seront obligés de repartir. Donc c'est ce que dit à un moment donné Ahmad dans le documentaire. Il dit, mais donnez-moi une île au milieu d'un désert, je suis prêt à y aller. Moi, j'ai pas choisi de quitter mon pays. On m'a fichu à la porte. Donc, Juste Ahmad, aidez-moi.
Et son livre américain de développement personnel, parce que il y a des surprises dans la bibliothèque.
Complètement, ils lisent des choses complètement des ouvrages complètement improbables. Leur grande référence, c'est des ouvrages de développement personnel à l'américaine, en effet.
Merci beaucoup, Delphine Minuit. Donc, je renvoie à ce livre qui est sorti il y a 2 ans aux éditions du Seuil, Les Passeurs de Livres, et puis Daraya, Une bibliothèque sous les bombes, dimanche soir en deuxième partie de soirée sur France 5. Alors, je vous présente le pape du développement personnel, c'est Ali Remedy. Ça va, Ali?
Ben oui, très bien, Sonia de Villers. Vous m'avez donné envie encore une fois ce matin, coup de projecteur sur la joie d'aller au restaurant. Ouais. Pourquoi aller au restaurant fait du bien, même quand l'assiette n'est pas inoubliable. Racontez-nous vos plus beaux repas, les plus conviviaux, les plus goûteux dans une improbable gargote ou à la table d'un grand chef. Et dites-nous également si vous n'aimez pas du tout aller au restaurant. Il y en a, ça existe. Je ne les comprends pas, mais ils peuvent appeler tout de même le 01 45 24 7000.